Shimon Perelman a 26 ans et deux enfants. Il fait partie de la communauté Haredi et vit dans le quartier résidentiel de Romema, à Jérusalem. Étant le cinquième d'une fratrie de 8 enfants, Shimi, ou Shemesh Sheli, comme l'appelle sa mère, n'a rien fait comme ses frères. Dans ce milieu où tout le monde voulait aller en yeshiva puis au kollel, Shimon avait une histoire particulière avec ce pays dans lequel il était né, pays pour lequel le reste de sa famille n'était que très perplexe. Déjà, dès son plus jeune âge, Shimon allait chez ses amis qui avaient une télévision chaque année pour les fêtes de Yom HaZikaron puis de Yom HaTzmaout. Il était toujours fasciné par la cérémonie militaire au mur occidental, au Kotel. Il se disait que, quand il serait plus grand, il voudrait faire l'armée. La journée de yeshiva finie, il économisait l'argent que lui donnait son grand-père pour aller au café internet et éplucher toutes les infos bonnes à savoir avant l'enrôlement. Il avait un deal avec son grand-père maternel. Ce dernier, juif religieux venu du Maroc dans les années 50, voulait absolument lui enseigner des rudiments d'arabe, la langue qu'il parlait avant de prendre la route d'Israël. Chaque semaine, scène surréaliste de voir Shimon, cet Ashkenaz complet en tenue noire et blanche de la tête aux pieds, étudier l'alphabet arabe le soir tombé. Mais le jeu en valait la chandelle. Lorsque Shimon avait réussi à annoncer son désir d'armée à ses parents, il ne restait plus qu'à choisir une unité. À l'entrée de la ville, pas loin du tramway, Shimi était tombé ce dimanche d'automne sur la bonne personne. Il avait passé la plupart des tests psychotechniques et il venait pour proposer 3 vœux d'affectation. « Bonjour, jeune homme. Ça fait toujours plaisir de voir un orthodoxe venir prêter main forte, » lui dit un commandant. « Bonjour, » lui répondit avec un grand sourire Shimon. « Bon, qu'est-ce que tu sais faire, mon grand ? J'ai besoin de cuisiner à Glilote, ça t'intéresse ?» Le visage de Shimon se pose lentement sur les mains du commandant qui lui fait face. Il lui dit dans un arabe châtié, sans accent aucun, de lui passer l'exemplaire du journal d'Al-Watan qu'il tient dans ses mains. Le commandant se redresse brusquement sur sa chaise. Quelque chose ne correspond pas. Un orthodoxe qui parle l'arabe littéraire, sans accent ? Shimon sent que c'est la chance de sa vie. Le commandant comprend la situation. Les séances de révision avec son grand-père. Il repenche les yeux vers les résultats de Shimon, très bons résultats d'ailleurs. Après une longue hésitation, il prononce le mot fatidique. Kravi ? Combattant. De tests physiques en mise en situation toutes plus périlleuses les unes que les autres, Shimi intègre à 19 ans l'unité des Yamas de Jérusalem, ceux qu'on ne voit pas, les célèbres Mistar Avim. Vous me direz, c'est tout simplement impossible qu'un jeune aussi religieux intègre une unité aussi prestigieuse. Eh bien, Shimi l'a fait. Et lorsque ce soir de mars, 7 ans plus tard, le téléphone sonne, sa femme sait pertinemment que ce n'est pas en Israël que son mari va passer la nuit. Il a beau lui dire qu'il travaille dans des bureaux à Tel Aviv, elle sait tout, ou presque. Ce soir, il faut aller arrêter un membre d'un groupe terroriste dans un hôpital de Jenin. Shimi doit passer au maquillage. Il ne peut pas rentrer de l'autre côté avec cet accoutrement et sa coupe de cheveux, c'est péote. Il retrouve rapidement son équipe dans des bâtiments en dehors de la ville pour se préparer. Après avoir passé les multiples contrôles avec une voiture de l'armée, ils entrent dans Jenin. Toujours la même adrénaline. Shimi se récite la prière du voyage à voix basse. Son pote qui n'est pas religieux s'esclave. Putain, Shimi, même déguisé en arabe, t'arrives à prier en hébreu. Comment tu fais ? Shimon esquisse un sourire. Tout en vérifiant ses nombreuses munitions. Il s'agit pour son équipe élue de pénétrer dans un hôpital, donc, du centre de la ville, habillé en civil, et d'aller arrêter cet homme soupçonné de terrorisme contre Israël, dans sa chambre d'hôpital. Pour ce faire, il est prévu que les 6 hommes entrent par l'entrée B du bâtiment. Un des hommes est déguisé en grand-mère, et sera sur une chaise roulante. Les 5 autres hommes se feront passer pour les membres de sa famille. C'est le plan qui a été choisi. Un classique. Pistolet avec silencieux dissimulé sur le vêtement ample, les Yamas progressent dans l'allée principale. Ils doivent savoir donner leur récit de couverture si un membre du personnel leur demande une information ou le pourquoi de leur venue. Les lieux sont truffés d'indicateurs qui savent que les Mistar Avim rôdent, que la menace est partout. Moment de pause, Shimon attend sur un banc face à une famille qui semble avoir perdu un proche. Il regarde l'enfant qui porte une peluche. L'enfant s'approche de lui et semble vouloir lui parler. Shimi ne dit rien, mais lui tend ses bras. Le petit lui donne sa peluche en forme de koala. Et d'un coup, notre Shimon pense à ses propres enfants et se rappelle que Pourim approche. « Oh oui, c'est demain !» dit-il presque en hébreu avant de se mordre la langue pour ne pas se griller. Pas le temps de se lever qu'un bruit assourdissant emplit le couloir. Ils ont été débusqués. La cible, trop méfiante, a tenté de s'enfuir de sa chambre. À ce moment-là, le chef de l'équipe a pris les choses en main. La mamie s'est elle aussi levée d'un coup. En 30 secondes, les 6 étaient dehors, prêts à entrer dans le van avec le membre du groupe terroriste. À 90 km dans les rues de la Casbah, l'arrivée au checkpoint s'est faite sans encombre. Au petit matin, après un débrief de l'équipe restreinte, Shimon repasse par la cellule maquillage. Il demande au gardien à l'entrée quand est-ce que c'est Pourim. Ce dernier éclate de rire. « T'habites à Jéru ?» lui répond. « Oui, grâce à Dieu !» esquisse Shimon. « Eh bien, tu as une session de rattrapage ce soir, mon vieux. C'est Pourim Shushan. » Shimon n'en revient pas. Toute la semaine, il était de l'autre côté, il a complètement oublié de préparer la fête. Il ouvre son sac pour récupérer son porte-monnaie et s'aperçoit que la petite peluche en forme de koala que lui a donné l'enfant à l'hôpital est là. « Ça plaira à Lévis, » dit-il en pensant à son petit dernier. Il part faire les courses pour le misté, le banquet traditionnel du lendemain, et en chemin, il croise son frère aîné, Réhouven, qui lui propose d'aller faire la prière à côté de chez lui. « On va aller voir Pépé, c'est son anniversaire, il est né à Pourim, tu te rappelles ?» Voilà les deux frangins, téfilines sous le bras, qui montent 4 à 4 l'escalier de chez leur grand-père. Shimon ne réfléchit pas et il pose la peluche sur la table. Son grand-père, dans un geste assez discret, replie l'étiquette écrite en arabe sur elle-même pour ne pas que Réhouven, le grand frère, ne se rende compte du détail un peu troublant. Moshe, le grand-père, ne sait rien du service de son petit-fils Shimon, mais l'adresse du magasin est écrite noir sur blanc, Jenin. Il sait que Shimon utilise les cours d'arabe à bon escient désormais. Voilà ce qu'il se dit. Lorsque Réhouven a le dos tourné, le grand-père découpe soigneusement l'étiquette puis tend la peluche à Shimon. « Tiens, c'est mieux comme ça. Tu embrasseras bien les petits de ma part, » dit-il avec un clin d'œil appuyé.